une chaleur extrême, mais nécessaire. Sinon, le résultat serait imparfait. L'or aurait des impuretés et perdrait de sa valeur. Dans la première épître de Pierre, cette même image est donnée pour parler des épreuves par lesquelles notre foi peut passer. Avant de creuser cette partie, nous pouvons lire le texte donc dans 1 Pierre 1, versets 1 à 9. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux que Dieu a choisis et qui vivent en exil, dispersés dans les provinces du Pont, de la Galatie, de la Cappadoce, de l'Asie et de la Bithynie. Dieu le Père vous a choisi conformément au plan qu'il a établi d'avance. Il vous a mis à part grâce à l'Esprit Saint pour que vous obéissiez à Jésus-Christ et que vous soyez purifiés par son sang. Que la grâce et la paix vous soient accordées avec abondance. Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande bonté, il nous a fait naître à une vie nouvelle en relevant Jésus-Christ d'entre les morts. Nous avons ainsi une espérance vivante, en attendant les biens que Dieu réserve aux siens. Ce sont des biens qui ne peuvent ni disparaître, ni être salis, ni perdre de leur éclat. Dieu vous les réserve dans les cieux. À vous que sa puissance garde par la foi en vue du salut, prêt à se manifester à la fin des temps. Vous vous en réjouissez, même s'il faut que maintenant vous soyez attristés pour un peu de temps par toutes sortes d'épreuves. L'or lui-même, qui est périssable, est pourtant éprouvé par le feu. De même, votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve afin de prouver sa valeur. C'est ainsi que vous pourrez recevoir louange, gloire et honneur quand Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez, bien que vous ne l'ayez pas vu. Vous croyez en lui, bien que vous ne le voyez pas encore. C'est pourquoi vous vous réjouissez d'une joie glorieuse inexprimable, car vous atteignez le but de votre foi, le salut de votre être. Qui est l'auteur de cette lettre? Comme son nom l'indique, il s'agit de l'apôtre Pierre. Dans les évangiles, nous apprenons à connaître Pierre, le pêcheur de poissons, un homme simple, issu du peuple, qui a été appelé par Jésus à le suivre et qui sera désigné par celui-ci comme son apôtre. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 21, versets 18 à 19, on lit « Jésus lui dit, « en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu. Puis il lui dit, « Suis-moi. » Pierre a su, tôt dans son ministère, qu'une mort pénible l'attendait. Mais Jésus lui dit, « Suis-moi. » Nous pourrions dire que Jésus lui demande, « Suis-moi, quel qu'en soit le prix. » En effet, selon la tradition chrétienne, l'apôtre Pierre est mort crucifié, la tête à l'envers, peu de temps après la rédaction de cette épître. Quel est le contexte de cette lettre? Cette lettre a été écrite dans un contexte de persécution contre les chrétiens dans l'Empire romain. Elle est destinée aux chrétiens d'Asie mineure, c'est la Turquie actuellement, pour les préparer et les exhorter à tenir bon en temps d'épreuve. C'est comme si aujourd'hui, un chrétien persécuté d'Irak écrivit une lettre à ses frères et sœurs persécutés en Afghanistan pour les encourager et leur donner des conseils tirés de son expérience des mêmes souffrances. Cette solidarité au sein du corps du Christ est l'une des forces de l'Église persécutée aujourd'hui, en Afghanistan ou ailleurs.
L'Église secrète d'Afghanistan est mise à rude épreuve. La prise de pouvoir par les talibans en août 2021 a encore durci la répression contre les chrétiens, ce qui a conduit le pays à la première place de l'index mondial de persécution des chrétiens en 2022. Des chrétiens ont fui leur pays. D'autres sont restés. La très petite communauté actuelle de chrétiens afghans fait tout pour maintenir le lien entre ses membres. Nous nous appelons les uns les autres dans le seul but de rester connectés, précise Saad, un chrétien rescapé. Plus tard, pendant ce culte, nous vous proposerons de prendre un temps de prière spécial pour ce pays, dans le cadre de la campagne « Prions pour l'Afghanistan » qui a lieu tout ce mois-ci de novembre.
Merci Babette. Quelles sont les grandes lignes du chapitre qu'on vient de lire ? Ce chapitre parle beaucoup d'espoir. Pierre appelle aux croyants leur position bénie. Il les enseigne aussi sur leur responsabilité et leur devoir de disciples à vivre dans ce monde, comme des étrangers au milieu de la persécution. Plusieurs fois dans sa lettre, Pierre annonce à ses lecteurs qu'être chrétien, c'est accepter d'être des résidents temporaires sur la terre et qu'ils seront amenés à subir l'opposition du monde. Suivre le Christ, c'est être prêt à passer par l'épreuve du feu. Nous allons développer cette image. Il est intéressant de voir qu'avant de nous parler d'épreuve, Pierre rappelle la raison pour laquelle ses lecteurs sont dans la souffrance. Parce qu'ils aiment Dieu. Il est bon de préciser que ce texte ne s'applique pas forcément à toutes les souffrances. Ici, il s'agit des épreuves qui viennent pour ébranler notre foi et non des conséquences de mauvaises actions, par exemple. Au chapitre 4, il est dit « Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Au contraire, qu'ils rendent gloire à Dieu dans cette situation. » Revenons donc à notre passage au verset 3. Louons Dieu, le Père notre Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande bonté, il nous a fait naître à une vie nouvelle en relevant Jésus-Christ d'entre les morts. Nous aussi, nous avons ainsi une espérance vivante. Dès le début de sa lettre, l'apôtre nous invite à regarder à celui qui est digne de nos louanges et par qui nous avons été choisis et mis à part conformément à son plan. Il liste ensuite trois bénédictions qui découlent de notre foi en Dieu. Il nous a donné une vie nouvelle. Nous avons une espérance vivante. Dieu nous réserve des biens qui ne peuvent ni disparaître, ni être salis, ni perdre leur éclat. Dieu nous garde dans cette espérance du salut éternel au sein de la Trinité. Nous le voyons parfaitement au verset 2. Dieu le Père vous a choisi conformément au plan qu'il a établi d'avance. Il vous a mis à part grâce à l'Esprit Saint pour que vous obéissiez à Jésus-Christ et que vous soyez purifiés par son sang. Cette introduction de Pierre est nécessaire avant de parler de l'épreuve. Il est bon de se rappeler pourquoi et pour qui nous sommes prêts à souffrir. Ma confiance en Dieu a-t-elle des limites? Quelle est la valeur de mon engagement envers Jésus? L'épreuve est une nécessité. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Les versets précédents nous ont rappelé que notre vie et notre salut viennent de Dieu. Du début du verset 6 et la conclusion des 5 premiers versets est dit « Voilà toutes les choses qui font votre joie. » Mais il est intéressant de relever que la phrase ne finit pas là et qu'immédiatement Pierre ajoute « Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. » Il dit en substance « Vous êtes dans la joie. » Et vous êtes triste dans la même phrase. Pierre parle des épreuves du présent, maintenant. Il explique que c'est une nécessité de les traverser, puisqu'il faut. Dans le grec, le mot pour falloir est dei, et suggère une obligation, une contrainte survenant d'une décision divine. Pierre dit que ces temps durs apportent de la tristesse, mais que c'est pour un temps limité par Dieu. C'est lui qui décide de la durée de nos épreuves. Pierre déclare de manière très directe les conséquences du choix de suivre Jésus. Être accablé par toutes sortes d'épreuves. Dans Timothée, on nous dit « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. » Ne soyons pas étonnés de connaître des tempêtes dans nos vies. Jésus n'a jamais promis une vie facile et paisible. C'est même le contraire. Alors, est-ce que notre foi est plus précieuse que l'or ? Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu. Dans l'Antiquité, et même encore aujourd'hui, pour révéler la bonne qualité d'un alliage, on soumettait les métaux à l'épreuve du feu. L'or était chauffé à 1000 degrés Celsius dans un creuset poreux. L'or fondait et les impuretés remontaient à la surface. Le fondeur ajoutait au creuset un peu de plomb. Une fois brûlé, il permettait aux impuretés de s'agglomérer autour de ce creuset et ainsi de révéler l'or uniquement. On utilise encore aujourd'hui cette méthode appelée la coupellation. Ainsi, quand Pierre dit que notre foi est plus précieuse que l'or, il nous explique que c'est seulement en passant par l'épreuve du feu que nous pourrons réellement voir la valeur de notre foi. Les difficultés par lesquelles nous passons révèlent la qualité de notre consécration et de notre confiance en Jésus. Le feu épure tout ce qui nous empêche de vivre pleinement dans la paix et l'assurance avec le Christ. Nous voyons dans le livre de Job, au chapitre 1, que Satan accuse Job de n'être fidèle à Dieu que parce qu'il est béni. Dieu va donc permettre que Job soit éprouvé par le feu, avec une seule limite laissée au diable. Tu ne prendras pas sa vie. En lisant la suite du livre de Job, nous pouvons voir que malgré la souffrance terrible qu'il a pu vivre, il savait que garder sa foi en Dieu avait plus de valeur que tout le reste. Et juste toujours dans Job, au chapitre 23, « Cependant, Dieu sait bien quelle voie j'ai suivie, qu'il me passe au creuset, j'en sortirai pur comme l'or. Car j'ai toujours suivi la trace de ses pas. J'ai marché sur la voie qu'il a prescrite. Je n'ai pas refusé d'obéir à ses ordres. J'ai fait plier ma volonté pour obéir à ses paroles. » Alors, nous n'aurons pas tous à vivre des épreuves aussi extrêmes que celles vécues par Job. Mais nous pouvons nous identifier à ses paroles. Sans avoir vécu en Afghanistan, certains d'entre vous ont probablement vécu du rejet ou de la moquerie à cause de votre foi. Bonne nouvelle. C'est la preuve que vous êtes sur la bonne voie. Mais Dieu ne permet pas ces souffrances pour nous punir. Les témoignages de nos frères et sœurs persécutés nous édifient et peuvent nous inspirer dans nos propres souffrances. Aujourd'hui, certains sont parfois littéralement éprouvés par le feu. Telle est l'histoire de Gédéon, un chrétien d'Érythrée. Dans son pays, le gouvernement arrête systématiquement tous les chrétiens qui ne font pas partie d'une dénomination reconnue. Gédéon est responsable d'église. Avec d'autres membres de sa communauté, il a été mis en prison et il y est resté pendant 6 ans et demi. Nous l'écoutons.
Je m'appelle Gédéon. Le gouvernement m'a emprisonné à cause de ma foi. Quand ils m'ont arrêté, ils m'ont mis dans une cellule de prison mesurant 2 mètres sur 1. Pendant des mois, je suis resté là, dans cette chambre étroite sans fenêtre. Pendant les trois premiers mois de mon emprisonnement, avec les membres de ma communauté, ils nous ont violemment battus. Nous étions appelés au moment où nous nous y attendions le moins pour être battus. Ensuite, j'ai été emmené dans un autre camp de prisonniers, un endroit extrêmement chaud, où il faisait en moyenne 40 degrés. J'ai dû ramasser du bois, des pierres, travailler dans la construction de maisons. Nous étions traités comme des esclaves. Comme j'ai refusé de renier Jésus, ils ont prolongé mon temps de prison. Un jour, nous avons été relâchés et ils ne nous ont toujours pas dit pourquoi nous avions été arrêtés. Ils nous ont avertis. Si on vous retrouve encore dans une église, vous serez tué. La douleur que j'ai ressentie pendant ces années d'emprisonnement et de travail forcé m'a traumatisé. Je pensais que je resterais en prison toute ma vie. Dans cette souffrance, j'ai recherché la face de Dieu, j'ai prié. En prison, j'ai eu la bénédiction de rencontrer d'autres chrétiens et dans le camp de prisonniers, des gardes ont accepté Jésus. C'est pour le Christ que je vis. C'est ma vocation. Mon ministère a grandi après ma libération. Quand je regarde en arrière, je vois que Dieu m'a fait grandir grâce à la prison. Oui, l'Église grandit. La persécution ne fait pas diminuer la puissance de Dieu.
Les résultats de cette épreuve. Le texte fait une boucle. Au début, au verset 1 à 6, Pierre nous exhorte à louer Dieu. Puis, après nous avoir annoncé qu'il est nécessaire que nous vivions diverses épreuves, il nous ramène à la louange, fruit de la valeur éprouvée de votre foi. Et dans 1 Pierre, au verset 7, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Certains de nos frères et sœurs persécutés, mais aussi certaines de nos assemblées, ne voient pas la fin de leur souffrance ici sur terre, mais leur récompense est céleste. D'autres sortent de la tempête. Ils peuvent témoigner du travail que Dieu a accompli en eux grâce au feu des épreuves. Tel est le témoignage de Rebecca, une chrétienne sri-lankaise qui est littéralement passée par le feu de la persécution et en est ressortie plus forte.
Je m'appelle Rebecca. Ce dimanche de Pâques 2019, je me trouvais à l'église Zion de Batticaloa, au Sri Lanka. Mais la fête a tourné au cauchemar lorsqu'un terroriste kamikaze portant des explosifs a pénétré dans le bâtiment. Trois églises et des hôtels ont été ciblés simultanément ce jour-là, faisant plus de 250 morts et des centaines de blessés. J'ai été brûlée au troisième degré. Ma sœur, mon beau-frère et mon neveu ont été tués. Malgré cette épreuve terrible, j'ai tellement de paix dans mon cœur. Je sais que Dieu fait tout pour notre bien parce que je l'ai expérimenté dans ma vie. Je me suis mariée en avril dernier avec le fils d'un pasteur. Je dois encore subir des opérations chirurgicales, mais je vous demande de prier pour moi et pour ma guérison totale.
Les circonstances horribles qu'elle a vécues n'ont pas altéré sa foi, au contraire. Et sa relation avec son Sauveur s'est encore approfondie. Ce témoignage rejoint ce que nous dit Pierre dans sa lettre. Humainement, il nous paraît impossible de nous réjouir d'une joie indescriptible et glorieuse. Mais au verset 7, nous avons à nouveau le rappel que tout cela est pour Jésus et par Jésus. Si Pierre peut affirmer que l'épreuve a pour résultat la louange et la joie, si Gédéon et Rebecca l'ont vécu, c'est parce que le Christ leur a donné la force de supporter les flammes et qu'il les a consolés et relevés après leur souffrance. Nous sommes sauvés pour l'éternité, mais nous devons accepter que notre foi puisse être mise à l'épreuve, éprouvée, attristée, mais toujours confiant. Le verset 7 nous affirme que le résultat de l'épreuve du feu et la louange, la gloire et l'honneur. Alors attention, oui, certains peuvent faire cette expérience lors de leur vie terrestre, mais le texte annonce bien que c'est lorsque Jésus apparaîtra que ses résultats seront manifestés. Il n'y a ici aucune garantie d'une récompense dans ce monde. Romains au chapitre 8, au verset 8, 18, confirme cette pensée. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Pierre va d'ailleurs continuer d'en parler plus loin dans cette même épître. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances du Christ. Tout comme manga, jeunes chrétiens du Nigeria, nous pouvons nous réjouir dans l'épreuve.
Voilà comment ça s'est passé. Ma mère et les plus jeunes enfants étaient dans la maison. Les assaillants nous ont amenés hors de notre terrain, mon père, mon frère et moi. Après nous avoir attaché les mains dans le dos, ils ont essayé de nous ouvrir la gorge avec un couteau. Ils ont décapité mon père. Ils ont séparé la tête de son corps. Ils sont ensuite passés à mon frère. Très vite, il a fait semblant d'être mort et ils l'ont laissé. Moi, à cause de la douleur insupportable que je ressentais d'avoir vu mon père être décapité, je me suis débattu. Quand ils ont vu que j'avais des coupures partout au niveau du cou, ils ont pensé en quelques instants, j'allais me vider de mon sang et ils sont partis. Dieu a eu pitié de moi. Nous avons vécu ce drame parce que nous sommes chrétiens. Ils essaient de nous avoir à l'usure, de nous tuer et de s'emparer de nos biens. Ils nous ont demandé de renier notre foi, de nous tourner vers l'islam. Notre père a refusé. Pour lui, rien n'avait plus de valeur que vivre pour le Christ. Et il croyait que la mort était un gain. Il n'a pas renié tout ça, même au moment de sa mort. Il était comme ça. Notre père. Les terroristes nous ont alors demandé à mon frère et à moi de renier notre foi. Et nous avons également refusé. J'ai dit que je ne renierais pas Jésus, mais que si je devais mourir, ce serait comme mon père, un chrétien. Ils ont répondu, alors on va te tuer. Mais nous sommes toujours vivants pour attester de la gloire de Dieu.
Survolons le reste de la lettre qui est destinée à des chrétiens persécutés en Asie mineure. Les différentes exhortations que Pierre leur donne doivent nous parler en tant que disciples de Jésus et surtout nous donner des outils pour faire face aux épreuves et aux persécutions. Il les encourage à espérer. Être saint, vivre en révérant Dieu, aimer, progresser en se nourrissant de la parole, être des pierres vivantes, un temple pour Dieu, avoir une bonne conduite au milieu des incroyants, pratiquer le bien et surtout suivre l'exemple de Jésus-Christ. Terminons ce temps avec un passage du chapitre 4 de cette lettre, les versets 12 et 13. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances du Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Amen.